Victor Laszlo, bonjour.
Bonsoir.
Merci de nous avoir rejoints chez Filigrane. Nous vous recevons aujourd'hui en tant que romancière, suite à la parution de votre premier roman, Albin Michel, La femme qui pleure. Alors, vous êtes chanteuse, actrice, maintenant romancière. Comment avez-vous vécu l'écriture de ce premier roman ?
L'écriture comme une nécessité, parce que l'écriture est un travail de très longue haleine, avec une période de maturation, une période de gestation très très longue. La parution comme un véritable accouchement, parce que c'est un travail que j'ai entrepris il y a une douzaine d'années, que j'ai laissé, que j'ai oublié, on va dire, pendant 12 ans, mais qui pendant 12 ans m'a empêché d'écrire autre chose, enfin pas d'écrire, mais en tout cas de penser à publier autre chose. Donc il fallait absolument que ce texte sorte pour libérer la voix à ce qui a envie de suivre.
Alors, quelles ont été les sources d'inspiration pour construire votre personnage d'Ida ?
Alors, Ida est un personnage qui n'est pas vraiment... On ne peut pas dire que j'ai construit un personnage. J'ai eu envie de parler d'enfermement, de parler de ce qui se passe sous notre boîte crânienne quelquefois, de m'intéresser à un personnage qui aurait toutes sortes de problèmes à faire face à une existence malmenée, on va dire, qui au lieu de s'être construite, s'est déconstruite au fil de ces rencontres, de m'interroger sur la dépendance dans le sentiment amoureux, de m'interroger également sur la difficulté de protéger ce que l'on doit protéger, et également du problème de la schizophrénie.
Comment expliquez-vous le rapport difficile d'Ida avec les hommes ? D'où vient...
Ida a une histoire malheureuse avec les hommes, simplement parce que le premier regard masculin qui s'est posé sur elle, était donc celui de son père, et ce regard était insuffisamment attentif. Le père n'est pas un mauvais père, il est simplement un petit peu distrait, on va dire. Il n'est pas assez attentif à l'enfant qu'il a, et le regard qu'il pose sur sa fille, l'intérêt qu'il porte à sa fille, est plutôt le reflet de ses propres aspirations que un lien qui est en connexion véritable avec cet enfant qu'il doit aider à se construire. Et ce premier regard est déterminant. Je ne dis pas que le regard d'un père sur une enfant est déterminant d'un avenir, mais en tout cas, il pose les premiers jalons, dans le cas d'Ida, d'une série destructrice. Le second regard est celui du premier amour. Ensuite vient celui du premier amant, et ainsi de suite. La brèche qui a été ouverte par ce regard d'homme, de père, a laissé entrer une forme de mésestime de la femme qui est en train de devenir Ida. Et chez le personnage d'Ida, cette mésestime est devenue comme une tache d'encre, c'est agrandi comme une tache d'encre, alimentée par le doute permanent de ce qu'elle est, de sa féminité, par un questionnement permanent sur le regard qu'elle porte sur elle-même et que lui renvoient les autres.
Vous faites vraiment ressortir sa part d'ombre, mais y compris dans son rôle maternel, puisqu'elle a tendance à surcouver Alexandre, à être par moments excessive, et à d'autres moments très absente de sa vie, justement. Elle est sans cesse tiraillée entre ses amours et ce fils qu'elle idolâtre par moments, j'ai l'impression. Enfin,
je pense qu'on aime un petit peu comme on a été aimé. Hein. On est, oui, on, on, Elle aime son fils, bien entendu. Elle en est folle, mais elle est très consciente aussi de ce qu'elle a vécu avec les hommes qui ont jalonné son parcours. Et tout à coup, lui apparaît l'évidence qu'elle a accouché d'un garçon. On sait très bien que nous femmes mettons au monde des hommes en devenir, et a fortiori quand on les élève seules, on en fait ce qu'ils deviendront. Et elle veut éviter à tout prix que cet enfant masculin devienne l'image d'un de ces hommes qui l'ont détruite depuis sa plus tendre enfance. Même si elle n'a pas une conscience très 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 établie de cette destruction, parce qu'elle est quand même dans une forme d'inertie face à ce qui lui arrive. C'est une espèce de victime. C'est une victime qui est dans une inertie qui la cloue au plancher. Et donc le rapport qu'elle peut avoir avec cet enfant est difficilement un rapport constructeur. Il ne se fonde que dans l'amour brut et dans le désir d'immuable. C'est-à-dire que cet enfant doit rester ce réceptacle de l'amour maternel et pas jamais devenir le réceptacle d'un amour de femme.
Tout à fait. Alors on voit aussi qu'Ida se dédouble tant physiquement que psychiquement, puisqu'elle a vraiment une double personnalité et en même temps un double rapport au corps. Elle est tantôt ronde, tantôt plutôt maigre. On a l'impression qu'elle se dédie au désir de ses amants et qu'elle craint par moments cet autre qu'elle perçoit. Enfin, il y a un rapport vraiment intéressant.
Alors là, je pense que ça arrive très souvent dans le développement de l'être humain. Les enfants souvent développent une forme d'alter ego qui, dans la petite enfance, leur sert d'exutoire et est un compagnon de jeu quelquefois. Il y a ce dédoublement, on le voit chez certains enfants, mais c'est un dédoublement qui, au fil de l'évolution de l'être humain, se disparaît et ces deux personnages se refondent en un. Et chez Ida, les deux personnages sont toujours restés deux, sont toujours restés. Il y a toujours eu elle et l'image que lui renvoyait le miroir. Et dans le trouble qu'a semé donc le regard du père, qui est quand même déterminant, en tout cas dans son histoire à elle, c'est installé ce confort finalement d'un autre elle, d'un autre moi, qui lui permet de se dédouaner d'un certain nombre de choses. Voilà. Ce n'est pas forcément conscient, mais en tout cas, c'est un personnage qui l'accompagne, hein, qui l'accompagne dans sa détresse, qui l'accompagne dans ses phases de bonheur, et qui l'accompagne malheureusement dans le dénouement de sa propre histoire.
Alors, elle n'aime pas toujours son corps, mais comment peut-on aimer lorsqu'on déteste son reflet ?
Elle le déteste, elle l'aime, hein, son reflet. C'est vraiment l'autre dans le miroir est en alternance quelqu'un qui lui renvoie une image positive ou une image absolument honnie. Non, je crois que la question c'est comment peut-on aimer quand on a été mal aimé, quand on a été sans cesse à l'envers de ce qui pouvait nous aider à grandir. Je crois que c'est surtout ça la question.
Alors, est-ce un roman sur la peur de ne plus se reconnaître ?
Non, est-ce que c'est un roman sur la peur de ne plus se reconnaître ? Je pense qu'elle n'en est même pas consciente. La peur n'est pas quelque chose. Je crois que si vous avez bien lu le roman, à aucun moment le personnage d'Ida a peur. Elle, elle, elle n'arrive pas à ce degré de conscience. Je pense qu'elle est, elle est parfois très très loin d'accéder à sa propre souffrance. Non, elle est dans sa logique qui est globalement assez destructrice. Il n'y a pas de peur, il y a une fatalité et une inertie. Ce genre d'inertie qui fait que l'on prend la mauvaise décision, que la décision que l'on prend est anarchique et incohérente.
Est-ce que l'écriture de ce roman vous a permis d'exorciser vos propres peurs en tant que femme et que mère?
Alors, mon fils a 22 ans, il va très bien, hein, je vous rassure. Parce que c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Alors, il vit à Londres, il est très amoureux d'une jeune femme, et il aime beaucoup sa maman. Donc, ceci étant dit, exorciser, oui, l'écriture est vraiment une plongée dans les... J'aime pas dire les bas-fonds, mais dans les profondeurs de l'âme humaine. Et c'est en cela qu'elle est, qu'elle peut révéler, qu'elle peut permettre à celui qui écrit d'expurger un certain nombre de choses. C'est évident que toutes les questions qui sont posées dans ce texte ont jalonné mon parcours également. Mais moi, j'ai eu la chance de prendre plutôt les bonnes décisions, et ce qui fait que je suis aujourd'hui ici et que je peux parler d'un personnage comme Ida. Mais je sais que ce n'est pas toujours le cas. Moi, j'ai rencontré, depuis que ce texte est sorti, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui sont venus vers moi, des femmes qui sont venues vers moi en me disant « j'ai été victime de ça », qui m'ont parlé de leur d'antécédents psychiatriques dus à une rencontre de ce type-là. Donc je sais que ça existe, je sais que c'est dans la société. J'ai pas inventé un personnage... impossible. C'est malheureusement l'âme humaine est telle dans ses aspérités, dans son côté sombre justement, qu'elle permet ce genre d'histoire.
Alors, votre premier roman est centré sur les thèmes de la folie et de l'enfermement, comme pas mal d'auteurs pas mal de romancières qui ont abordé le sujet, comme Sylvia Plath, Virginia Woolf, que vous citez d'ailleurs en exergue, Nelly Arcan. Est-ce que ces romancières vous ont inspiré pour écrire ce livre?
Virginia Woolf est une inspiratrice de la première heure, bien sûr. C'est un auteur que j'aime énormément. Je pense que la folie est un terme qui, pour moi, n'est pas toujours juste et justifié, parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'âme humaine. Ce que l'on, d'ailleurs, c'est la phrase qui est dite en exergue. Hein, c'est la phrase de Virginia Woolf qui dit « Chacun de nous a son passé enfermé en lui comme les pages d'un vieux livre qu'il connaît par cœur, mais dont ses amis pourront seulement lire le titre. » C'est vrai que ça correspond très bien à l'œuvre de Virginia Woolf, qui, il faut le savoir, a été considérée comme folle, alors qu'elle était tout simplement une femme savante, une femme brillante, une femme simplement à qui l'on a empêché d'enfanter, parce que certains psychiatres de l'époque ou docteurs de l'époque avaient décidé que c'était pas bon pour elle. Et son mari, trop content d'avoir ne pas se soumettre à l'acte sexuel, parce que c'était apparemment pas ce qu'il préférait, avec les femmes en tout cas, c'est contenté du jugement péremptoire des médecins de l'époque. Et on en a fait une folle. Enfin, heureusement, l'histoire lui a rendu justice et on sait que c'est un génie. Alors, la folie, si elle se retourne contre l'individu, je pense que elle est très intéressante. Elle est très intéressante. Si elle peut donner naissance à du génie, si elle peut donner naissance à de la création, si elle peut faire avancer l'humanité, je pense que c'est le cas de beaucoup de grands fous de l'histoire de l'humanité.
Mais merci beaucoup, Victor Laszlo.